Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Une heure pour vous informer et vous exprimer. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Européens et Iraniens réunis à Genève aujourd'hui au menu des discussions, notamment le nucléaire iranien. On fait le point dans un instant avec notre correspondant à Téhéran. La Syrie n'avait pas connu de telles violences depuis 2020. Djihadistes et forces de Bachar al-Assad s'affrontent depuis deux jours dans le nord-ouest du pays. Bilan, près de 200 morts, 14 000 déplacés. Précision à suivre. Dans ce journal également, N'Djamena qui met fin aux accords de défense avec Paris. Annonce du ministre des Affaires étrangères tchadien hier, quelques heures après la visite de son homologue français. La présence militaire française au Sahel toujours plus remise en question. Et puis, nous irons à Busan en Corée du Sud où se déroule en ce moment la conférence sur le plastique. Nous nous intéressons aux dizaines de millions de personnes qui travaillent dans les déchetteries mondiales. Je ferai tout pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. La déclaration hier de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, alors que des pourparlers ont lieu aujourd'hui à Genève, en Suisse. Ils réunissent l'Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Téhéran, alors qu'ils doivent se retrouver aujourd'hui, le ton est encore monté d'un cran entre Européens et Iraniens.
Absolument. L'Iran et les trois pays européens se retrouvent donc après plusieurs années et alors que le président Donald Trump doit prendre ses fonctions dans moins de 40 jours, après la récente résolution adoptée par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a réagi en annonçant la mise en marche de milliers de nouvelles centrifugeuses, notamment des IR-6, qui sont les centrifugeuses les plus puissantes et les plus modernes que l'Iran possède, ce qui va augmenter considérablement les capacités d'enrichissement d'uranium du pays. Mais surtout, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a de nouveau menacé que l'Iran pourrait changer de doctrine nucléaire et aller vers la fabrication de l'arme atomique si jamais les Occidentaux accentuent la pression contre l'Iran et déclenchent en particulier le mécanisme qui permettra le retour des sanctions onusiennes suspendues depuis l'accord de 2015. La fabrication de l'arme atomique n'est plus un sujet tabou en Iran. Des experts, des députés, mais aussi des représentants du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, demandent depuis plusieurs mois que l'Iran change cette doctrine et produise l'arme atomique face aux menaces israéliennes et américaines.
Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran, au Proche-Orient. Les Libanais ont l'interdiction de se déplacer au sud-Liban, dans les villages et leurs environs, jusqu'à nouvel ordre. L'avertissement ce matin du porte-parole de l'armée israélienne qui dit avoir ouvert le feu hier sur des suspects dénonçant une violation du cessez-le-feu de la part du Hezbollah. Notez aussi qu'à Gaza, les conditions pour un accord sur la libération des otages se sont considérablement amélioré, c'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, hier à la télévision, alors que de nouvelles frappes ont fait au moins 21 morts dans l'enclave palestinienne. En Syrie, cela faisait 4 ans que les affrontements n'avaient pas été aussi violents. Les djihadistes de Rayat Tahrir al-Sham et leurs alliés ont lancé depuis deux jours une vaste offensive contre les forces de Bachar al-Assad dans le nord-ouest du pays et bombardent ce matin la ville d'Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des violences qui ont déjà fait près de 200 morts, 14 000 déplacés, dont la moitié sont des enfants, selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Les détails avec Pierre-Olivier.
Parmi les victimes, une centaine de djihadistes, 61 membres des forces du régime de Bachar al-Assad et 20 civils. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il faut dire que les combats sont particulièrement nourris dans la région d'Alep, en grande partie aux mains du régime du président Assad et qui jouxte le dernier grand bastion salafiste. C'est notamment de là, de la ville d'Idlib, que des colonnes de combattants sur des pick-up épaulés de drones suicides ont entrepris de remonter vers Alep et ses 2 millions d'habitants. Leur objectif, faire tomber Bachar al-Assad et instaurer un califat. Plusieurs villages situés le long de la route M5, désormais coupée, qui relie la région à la capitale, Damas, sont déjà tombés. C'est désormais vers Alep, la deuxième ville du pays, que les regards se tournent. Les djihadistes ne seraient plus qu'à quelques kilomètres du centre-ville. Un noyau activement défendu par les soldats du régime, aidé de l'aviation russe et de milices pro-Iran. Pourtant, rien rien ne semble pouvoir stopper l'avancée des rebelles qui pourraient prendre Alep dans les heures qui viennent.
Pierre-Olivier, quelques heures après la visite de Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, le Tchad a annoncé hier mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Le Tchad, dernier maillon de la présence militaire française au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les précisions d'Alexandra Brangeon.
Le communiqué a été publié hier soir sur la page Facebook du gouvernement tchadien. On peut y lire « Le gouvernement a décidé de mettre fin aux accords de coopération signés avec la France visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision prise après une analyse approfondie marque un tournant historique », affirme le communiqué. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le gouvernement ajoute que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Que veut dire cette rupture ? S'agit-il d'un départ de tous les soldats français du sol tchadien ? Aujourd'hui, ils sont environ 1000. Ou est-ce un appel à revisiter la coopération ? En tout cas, rien n'a filtré à la sortie de l'entretien en fin d'après-midi entre le président tchadien Mahamat Debi et le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui effectuait une visite de 24 heures dans le pays. Aucune des deux parties n'a semblé montrer de signe d'une dégradation des relations. Côté français, il n'y a pas eu de déclaration dans la soirée. Alexandra Brangeon, Addis Abeba, RFI.
Le chef de la diplomatie française qui est arrivé dans la soirée en Éthiopie avant de se rendre au Sénégal, où là aussi la France va devoir fermer ses bases militaires. C'est ce qu'a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, qui a affirmé également qu'Emmanuel Macron a reconnu pour la première fois dans une lettre que les forces coloniales françaises avaient commis un massacre il y a 80 ans contre les tirailleurs africains à Tiaroy le 1er décembre 1944. Après une campagne marquée par le manque de logements et l'inflation, les Irlandais sont appelés aux urnes aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour des élections législatives qui devraient se jouer dans un mouchoir de poche entre les deux partis de centre droit de la coalition sortante et le parti d'opposition. Meta, maison mère de Facebook et Instagram, TikTok et Snapchat montent au créneau. Les géants des réseaux sociaux ont condamné ce matin la loi adoptée en Australie hier qui prévoit d'interdire l'accès aux réseaux sociaux mineurs de moins de 16 ans et devient l'un des pays les plus stricts en la matière. La loi ne devrait pas entrer en vigueur avant au moins un an, mais en cas de non-respect, des amendes pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros sont prévues. Ce chiffre, à présent, ils sont 20 à 34 millions dans le monde. Les récupérateurs, ce sont eux qui traitent et arpentent les décharges du monde à la recherche des matériaux recyclables. Ils viennent témoigner à Busan, en Corée du Sud, à la conférence sur le plastique de leurs conditions de vie. C'est Lio Fioretti.
John Chouya est kényan et il a fait tout le chemin jusqu'à Busan en Corée du Sud pour témoigner du travail souvent invisible des ramasseurs de déchets plastiques. Il nous raconte son parcours.
Quand j'avais 13 ans, notre entreprise familiale qui vendait des vêtements de seconde main a brûlé dans l'incendie du marché. Notre famille s'est retrouvée dans une situation où tout le monde devait travailler pour manger. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à la déchetterie dans laquelle je suis depuis 21 ans.
Un travail éreintant de collecte et tri de déchets à la main qui expose sa santé à de nombreux risques.
Cela impacte notre santé. Je suis allé dans plusieurs déchetteries en Afrique du Sud et une en Afrique de l'Ouest. J'ai récemment appris que le plastique est composé de plus de 16 000 produits chimiques. Vous imaginez quand ça brûle. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes collègues ont, depuis des années, des symptômes qui paraissent cancéreux. Mais nous n'avons pas pu faire d'examen car accéder à des soins médicaux est très cher dans mon pays.
Venu partager son témoignage, il espère une prise de conscience des autres pays sur la situation de millions de travailleurs et un traité qui pourrait les protéger. C'est le Fioretti, Busan, RFI.
Retour en France, Emmanuel Macron a rendez-vous à Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, 5 ans et demi après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, le président doit visiter le chantier, prononcer un discours une semaine avant sa réouverture au public. Les Français qui vont donc pouvoir découvrir aujourd'hui à la télévision l'édifice rénové, plus bel encore qu'avant, a prévenu le président. Il est 8h10 en temps universel et à Dakar, 9h10 à Paris. On vous retrouve, Juan Gomez.
C'est la bonne heure, effectivement. Ouais. Merci Alban Leprince. Reste avec nous dans 30 secondes, vous avez la